Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Auditeurs et auditrices de Radio Galère, bienvenue dans l'émission Libre Débat. Alors je vous souhaite une bonne année 2024, on ne se laissera pas abattre. Et pour commencer l'année en beauté, je vous propose d'écouter un ovni radiophonique. Un mélange d'analyse, de lecture et de création sonore pour renverser l'écologie. Alors Radio Renversée, c'est une émission qui est irrégularomadaire, bon c'est un peu dur à dire, qui est diffusée sur Pinode. Pinode, c'est une web radio collective et expérimentale. Elle a été réalisée par la compositrice Aude Rébillon et aussi la chercheuse indépendante Juliette Volclair. Juliette Volclair, on la connaît bien à Radio Galère parce qu'elle a animé une émission qui était super passionnante et qui s'appelait L'Intempestive. Juliette Volclair, elle est passionnée de radio, de son, et ses recherches l'ont menée dans plein de directions un peu incroyables. Et vous pouvez aller retrouver un petit peu ses cheminements sur son site qui s'appelle intempestive.net. Alors là, ce que je vous propose d'écouter aujourd'hui, c'est un gros morceau de radio. Ça dure 2h30. C'est un peu trop gros pour passer dans le créneau de libre débat. Alors j'ai un peu escamoté une heure au milieu. J'espère que d'entendre ça, ça va vous donner envie de l'écouter dans son intégralité. Si vous voulez l'écouter dans son intégralité, il faudra retourner sur le site de Juliette Volclair, intempestive.net. Qu'est-ce que propose cette émission ? Eh bien, de cheminer à travers une polyphonie humaine et non humaine dans ce qui pourrait être une écologie féministe, décoloniale, antivalidiste et multispéciste. Alors, ben, très bonne écoute.
Voilà, on est de retour pour la radio renversée numéro 12. Ça fait longtemps, Juliette, qu'on n'a pas enregistré d'émission.
Ouais, salut Aude, ça fait un petit bout de temps, ouais. ça fait bien 6 mois, voilà. Mais bon, c'est le rythme de radio renversée, irrégulier hebdomadaire, on y tient. Et de toute façon, c'est comme ça.
Et peut-être justement, c'est ce temps long dont on a besoin aussi pour imaginer l'émission. Et surtout, là, on s'est plongé dans un renverser l'écologie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé par vous faire écouter un son de Isabella Dluzik.
On va parler d'Isabella Dluzik, mais peut-être juste cette renversée l'écologie, effectivement, elle nous a bien occupés, elle nous a beaucoup... comme d'habitude, en fait, ça prend beaucoup de temps, Radio Renversée, parce qu'on se questionne à chaque fois sur comment fabriquer l'émission. Et ce questionnement revient en permanence. Et là, on voulait construire une émission de façon écoféministe aussi. En partant justement dans la diversité, sans relever une voix par rapport à une autre, en étant vraiment dans la constellation, dans l'écoute, et aussi dans le senti-pensé. Alors on va développer un petit peu ça après, le senti-pensé, c'est la conjonction de sentir et penser. Donc en gros, de ne pas décorréler nos choix rationnels de nos émotions, de faire travailler les deux ensemble. Et voilà. Et donc on va faire ça au fil de ces 2 heures, enregistrées dans les conditions du direct, mais remontées après coup. Donc c'est un mélange de direct et de pas du tout direct.
Direct et indirect.
On veut donc faire une émission autour de renverser l'écologie, puisque c'est le principe d'aller questionner des usages, des pratiques qu'on a nous-mêmes, mais en se disant qu'est-ce qu'il faut questionner encore plus là-dedans pour qu'un changement réel puisse advenir. Et renverser l'écologie, ça nous a fait explorer précisément une écologie féministe, une écologie décoloniale, une écologie anti-validiste, une écologie multispécifique, c'est-à-dire pas centrée sur l'humanité. Et voilà, et on va aborder tout ça au fil de l'eau pendant ces 2 heures d'émission et sur Pinode et sur l'écho des Garrigues qu'on remercie une nouvelle fois pour leur accompagnement et qui font partie, nous, de notre écosystème plus large, qui part de nos petits ordinateurs à la maison et qui va jusqu'aux antennes de ces 2 radios.
Et oui, l'idée, oui, de, comme tu disais, de la construire de manière écoféministe, cette émission, c'est qu'on n'avait pas envie d'hégémonie de pensée. Et donc, vous n'allez pas entendre une figure ou une autre qui pourrait émerger. On a vraiment essayé on a fait énormément de lectures pendant 6 ou 7 mois et on a essayé de voir qu'est-ce qui retenait notre attention, ça peut être sur la question du détail comme d'une pensée qui nous a, enfin il y a des pensées qui nous ont beaucoup beaucoup touchés et on va essayer de vous faire sentir justement tout ça et les choix qu'on fait là aujourd'hui dans cette émission. On a par exemple sur ma table, j'ai toute la pile de bouquins qu'on a lu avec plein de notes, plein de préparations. Notre conducteur est très très mouvant, c'est-à-dire que comment on va faire cette émission, on sait à peu près, mais on se laisse la possibilité d'improviser, de sentir dans quelle direction on va plutôt aller en fonction de comment on se sent là ce matin, qu'on enregistre un matin. Ça fait un rebond sur le son matinal qu'on a entendu en ouverture d'émission d'ailleurs.
Oui, parce que donc Isabella Dluzik, donc on a entendu Aurore avec des cigognes, qui fait partie de son album Soundscapes of Summer, donc paysage sonore de l'été, qui est paru sur le label L'Homme en 2016. Et Isabella Dluzik, c'est une audio-naturaliste, une créatrice sonore aveugle, polonaise, qui travaille dans les environnements proches de chez elle. Et cet aspect-là nous a particulièrement intéressés. Déjà, ça place l'émission aussi sous le signe de l'antivalidisme, qui est particulièrement important aujourd'hui, on va y revenir, et aussi qui la situe au niveau local, quoi, dans des actions qui partent pas forcément à l'autre bout du monde. Et pareil, on va revenir dessus après. Et peut-être pour avancer sur la question du senti-pensé, pourquoi est-ce qu'on a choisi de construire l'émission comme ça? C'est surtout qu'à travers la documentation qu'on a faite, on est tombé sur ce terme qui vraiment a tout de suite fait écho à même la manière dont on essaye de fabriquer cette émission depuis le début, en réalité. Et la manière de concevoir aussi la création de façon plus générale dans nos pratiques. Et c'est un mot qui vient de la culture paysanne colombienne, paysanne et des pêcheurs et pêcheuses en Colombie. Et peut-être je vais vous lire le résumé qu'en fait une chercheuse, une universitaire, qui s'appelle Héloïse Prévost, dans la revue Recherche Féministe de 2019. Et donc son article s'appelle « Jusqu'à ce que nous soyons toutes libres, la militance senti-pensée des féministes agro-écologiques brésiliennes contre les violences agro-capitalistes ». Et au tout début de cet article, elle donne la définition du senti-pensée. Et voilà, enfin pas que du senti-pensée d'ailleurs, voilà ce qu'elle en dit. « Corazonar » est un mot valise constitué des substantifs corazón, cœur, et razón, raison. Expression hybride entre émotion, affect et raison. Alors, je ne vous mets pas toutes les citations qu'elle fait entre parenthèses, elle donne plein de noms d'auteurs et d'autrices auxquels elle se réfère, mais on vous mettra le lien sur la page de Radio Renversée. Vous pouvez retrouver cet article sur erudit.org. Donc, je continue sans les parenthèses qu'elle met de citations. Cette notion, donc corazonar, est une proposition spirituelle et politique issue des luttes des peuples indigènes et afrodescendantes d'Amérique latine. Une sanation, c'est-à-dire un processus de soin, de l'être, qui revitalise les forces primordiales, l'affection, la dimension sacrée de la vie, la dimension féminine de l'existence et de la sagesse, affectées et attaquées par la colonisation. Les émotions sont une énergie vitale qui promeut l'action. Le corazonar se pratique comme un exercice d'auto-apprentissage qui provoque la compréhension et le changement du monde. Très proche, le senti-pensé est une notion diffusée par le sociologue Orlando Falsborda, fondée sur la culture populaire paysanne du Caraïbe colombien. Dans ses recherches, il rencontre des pêcheurs et pêcheuses d'origine colombienne qui mobilisent cette notion pour affirmer le sens politique de la rencontre entre le cœur et le corps, l'humain et le non-humain. D'un côté, la notion désigne la capacité à surmonter les difficultés en s'inspirant de techniques de lutte et de survie animale. Les pêcheuses et les pêcheurs imitent les stratégies des tortues Icotea, espèce endémique d'Amérique latine. De l'autre, les personnes senti-pensantes combinent émotion et raison pour atteindre une harmonie dans leur vie. Forçant chaque personne à sortir des cadres de pensée dichotomiques, ces notions opère deux mouvements consubstantiels, la fusion entre émotion et rationalité, les liens entre humain et non-humain. Outre qu'elles décentrent, désoccidentalisent le regard, ces conceptualisations permettent de rompre avec la croyance d'un monde unique et de visibiliser d'autres possibles, des alternatives à l'ordre dominant et à la colonialité du pouvoir. Les écoféministes et les féministes décoloniales ont montré combien la rationalité occidentale, qui sépare et déconnecte esprit et corps, personne humaine et nature, fait partie d'un ordre colonial et patriarcal. L'émotion et les formes de savoir senti-pensée, mystiques, spirituelles, liées à l'expérience, ont été attribuées aux femmes et aux peuples colonisés que l'on a associés à l'irrationalité et au danger. Pourtant, ces pensées en action construisent les bases sociales, épistémiques, ontologiques et culturelles d'une transformation sociale et écologique du monde. Et donc là, quand même, je vais citer sa parenthèse, puisque c'est c'est une citation qu'elle fait d'Arturo Escobar, qui a écrit un livre qui est paru au Seuil et qui s'intitule « Senti-penser avec la Terre ». Voilà. Thank you.
Yeah, we have quite a few types of peas. We have some butterfly peas. We have chili. And we also have flowers.
We have sunflower seeds.
And turmeric, right?
Thamin.
The yellow one?
The yellow.
Thamin.
And then we have cosmos, which is a flower. Love this. I think it has a rhythm. And sing a lullaby to the ground.
Thank you.
c'était Champak Flowers for the Lunisolar Calendar. C'est un morceau de Diane Barbet sur son album A Conference of Critters, qui est paru sur le label FOM en 2021. Et bon, autant on était dans les forêts polonaises, vraiment dans l'environnement proche de chez soi, avec de musique, autant avec Barbet, là, on est dans la forêt thaïlandaise, alors qu'elle est européenne. Et mais en fait, ça nous intéresse aussi, cette tension-là, qui traverse également tout le champ de l'audio-naturalisme. Qu'est-ce qu'on fait quand on va ailleurs? Comment est-ce qu'on travaille avec les gens qu'on rencontre, avec les autres espèces qu'on rencontre, avec les territoires dans lesquels on s'inscrit? Et là, en l'occurrence, bah, ça nous a semblé à l'oreille mais une belle composition, une belle manière de se positionner. Ediane Barbet, c'est une artiste et chercheuse qui mêle ma recherche biophonique, c'est-à-dire sur les espèces animales, leurs vocalisations, leurs expressions sonores, et activisme. Et notamment, elle cherche beaucoup des formes, comme elle dit, de résonance interspécifique, donc entre humains et non-humains. Et donc là, on entendait des femmes thaïlandaises qui plantaient des graines, faisaient flotter des fleurs sur l'eau, et plongeaient leurs mains dans la terre.
Et j'avais envie, moi, de lire un extrait de Révèle Obscur, intitulé, enfin sous-titré « Femmes » au pluriel « Magie et politique », et c'est écrit par Starhawk. Alors Starhawk, c'est une activiste américaine qui se définit comme une sorcière néo-païenne. Alors sorcière, en fait, c'est vraiment une revendication hein, de se nommer sorcière. C'est une manière, et là je cite Émilie H. qui a édité en français « Révèle Obscur », et dans sa préface, elle dit qu'en fait, pourquoi on se nomme sorcière, c'est que ça permet de s'identifier aux victimes qu'on fait de tout temps la misogynie et les persécutions religieuses, et rendre aux femmes le droit d'être fortes, puissantes et même dangereuses. Et donc, quand elle publie cet ouvrage en 1982, juste avant, elle a participé à un énorme blocus, avec plein d'autres militantes et militants, une action de blocage géant en Californie contre la mise en marche d'une centrale nucléaire qui s'appelait Diablo Canyon. Donc il y a eu 2 semaines de blocage, 1900 arrestations. Voilà, c'est un mouvement antinucléaire d'action directe, non-violent, anarchiste et féministe qui s'appelait l'Alliance Abalone. Et donc elle, à l'intérieur, comme d'autres féministes et d'autres femmes, elles vont dans l'action essayer de relier le spirituel et le politique en amenant des rituels, en amenant en fait au sein même des pratiques politiques, des rituels et des manières de faire groupe et de partager qui induisent des espaces de transformation au sein même des mouvements politiques. Et donc, le mot « révèle obscur », enfin, pourquoi elle a choisi ce titre ? C'est une manière, on va l'entendre, d'affronter ensemble l'obscur pour ne pas être dévoré par lui. Donc c'est nommer la peur, nommer ce qui nous rend impuissant, puis nommer ce qui nous rend puissant. Et c'est ça qui est un acte politique et magique selon Starhawk. Et j'avais envie de vous lire le début, le premier chapitre, ce qui faisait vraiment écho au senti pensé et à pas mal d'autres choses qu'on va voir dans l'émission. Donc ce premier chapitre s'appelle « Pouvoir sûr et pouvoir du dedans ». Il dit qu'il n'est pas de ce monde, qu'il y a été mis en tant qu'étranger. Premier cercle. Sur 2 kilomètres à la ronde, vent de 800 kilomètres à l'heure, destruction de tous les bâtiments, y compris les immeubles de bureaux renforcés d'acier. La plupart des gens dans la zone ont été tués sur le coup. Cercle de mains, cercle de bras autour des corps de chacun chacune, cercle de voix, cercle du pouvoir. Dans le cercle, nous chantons les noms de chacun, chacune. Nous mettons les mains sur le corps de chacun, chacune, pour le réconforter, le guérir. Nous partageons notre peine. Quand vous sentez-vous sans pouvoir? Quand avez-vous le sentiment de votre propre pouvoir? Demandons-nous les unes aux autres. Deuxième cercle. 4 kilomètres à la ronde, vent de 500 kilomètres à l'heure, bâtiments en pierre et en béton détruits, les personnes exposées, si elles n'ont pas été tuées, sont dangereusement brûlées. En donnant naissance à mon bébé, j'ai senti un pouvoir à ce moment-là. En plantant mon jardin ou en tissant. quand je peux m'exprimer vraiment et dire ce que je sens réellement. En organisant une manifestation, en distribuant les tracts et en voyant tant de monde y venir. Quand je me joins à d'autres personnes pour travailler ensemble, c'est là que je sens du pouvoir. Quand je fais ce que j'ai peur de faire. Pendant que j'écris, les chats jouent sur mon bureau, se lèchent l'un l'autre, jettent mes papiers par terre ou se roulent pour dormir en sécurité dans leur univers familier. Leur esprit n'imagine pas des vents de 800 km à l'heure, ou la possibilité que cet environnement soit transformé en chair et os carbonisés en un éclair. Nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité comme eux. Les journaux décrivent ce qui arriverait si la ville était frappée par une bombe atomique. Ils parlent de pesticides dans l'eau potable, d'une alerte nucléaire causée par une erreur informatique, d'enfants rendus anormaux par des déchets chimiques. Il semble que le soleil décline sur le monde de chacun et chacune, que nous sommes proches de perdre ce qui ne pourra jamais redevenir nôtre, définitivement altéré. Nos actes de pouvoir semblent frêles comparés à ceux des pouvoirs de destruction. Il y a trop d'ennemis, trop de sites d'enfouissement de déchets chimiques, trop d'armes déjà en stock. Il y a trop de gens sans emploi, trop de gens sans espoir, trop de violeurs en liberté. Trop de ceux qui exercent de grands pouvoirs sont indifférents. Ils ne se sentent pas faire partie de ce monde. Troisième cercle. 60 km à la ronde, vent de 250 km à l'heure, destruction des maisons en briques à structure de bois, les gens exposés sont gravement brûlés. Je sais que je ne suis pas la seule à me laisser envahir parfois par le désespoir. Cette incertitude grandissante affecte chacune d'une souffrance personnelle. Nous n'avons plus l'assurance de laisser à nos enfants un monde meilleur, ni même un monde vivant. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. Il est à entendre au sens premier du mot « pouvoir », qui vient du latin populaire « podere », « être capable ». C'est le pouvoir qui vient du dedans, le pouvoir du dedans. Il y a beaucoup de noms pour le pouvoir du dedans, dont aucun n'est entièrement satisfaisant. Il peut être appelé « esprit », mais alors cela le sépare de la matière, et cette fausse coupure fonde les institutions de domination. Il pourrait être appelé « Dieu », mais le dieu des religions patriarcales a été la source ultime et le dépositaire du pouvoir sûr. Je l'ai appelé immanence, un terme à dire vrai, froid et intellectuel. Et je l'ai appelé la déesse, car les anciens mythes, symboles et images de la déesse comme l'enfantement, le tissage, la terre, la croissance des plantes, le vent, l'océan, la flamme, le tissu, la lune et le lait me parlent tous des pouvoirs de ce qui connecte, nourrit, guérit et crée. Oui, le pouvoir du dedans est le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre. Le pouvoir qui vient de notre sang, de nos vies et de notre désir passionné pour le corps vivant de l'autre. Si nous voulons survivre, la question devient « Comment renversons-nous non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe du pouvoir sûr ? Comment donnons-nous une forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans ?» Un changement de paradigme de conscience est toujours incommodant. Chaque fois que nous éprouvons la sensation légèrement effrayante, légèrement embarrassante, que produisent des mots comme « déesse », nous pouvons être sûrs que nous sommes sur le chemin d'un profond changement dans la structure et le contenu de notre pensée. Les problèmes sont plus vastes que ne l'impliquent les termes de « religieux » et « politique », ce sont des problèmes de connexion complexe. Car même si l'on nous a appris que les problèmes sont distincts, que le viol est distinct de la guerre nucléaire, que la lutte d'une femme pour l'égalité de salaire n'est reliée ni à celle de l'adolescent noir pour trouver un travail, ni à celle contre l'exportation d'un réacteur nucléaire vers un site de faille sismique près des volcans en activité aux Philippines, toutes ces réalités sont formées par la même conscience qui modèle nos relations de pouvoir. Actuellement, elle prépare la destruction du monde. J'appelle cette conscience mise à distance, car son essence est de nous faire nous voir nous-mêmes à l'écart du monde. Nous sommes à distance de la nature, des autres êtres humains et même de certaines parties de nous-mêmes. Nous voyons le monde comme constitué de parties divisées, isolées, sans vie, qui n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Pourtant, une autre forme de conscience est possible. En fait, elle a existé dès les premiers temps, fut à la base d'autres cultures et a survécu, y compris en Occident, de manière clandestine. C'est la conscience que j'appelle immanence, l'attention au monde et à ce qui le compose, un monde vivant, dynamique, interdépendant et interactif, animé par des énergies en mouvement, un être vivant, une danse serpentine. Quand le monde est perçu comme étant composé d'êtres vivants, dynamiques, interconnectés, valables intrinsèquement, le pouvoir ne peut plus être vu comme quelque chose que les gens ont. Les rois, les tsars, les généraux tiennent le pouvoir comme on tient un couteau. Le pouvoir immanent, le pouvoir du dedans, n'est pas quelque chose que nous avons, mais quelque chose que nous pouvons faire. Comment effectuer ce changement pour l'immanence ? La réponse que je propose s'appuie sur la magie, que je définis comme l'art de changer la conscience à volonté. D'après cette conception, la magie inclut la politique, qui a pour but le changement de la conscience et par conséquent la conduite du changement. La magie est un autre mot qui met les gens mal à l'aise, aussi je l'utilise délibérément. Car les mots avec lesquels on se sent bien, les mots qui paraissent acceptables, rationnels, scientifiques et intellectuellement fiables, le sont précisément parce qu'ils font partie de la langue de la mise à distance. La magie peut être très prosaïque. Un tract, un procès, une manifestation ou une grève peuvent changer la conscience. La magie peut aussi être très ésotérique, mobiliser toutes les anciennes techniques qui visent à élargir la conscience, développer l'expérience psychique, aiguiser l'intuition. Quand nous pratiquons la magie, nous sommes toujours en train de faire des connexions, de déplacer des énergies, de nous identifier à d'autres formes d'être. La magie pourrait être considérée comme une science appliquée, basée sur la compréhension de la création de formes par l'énergie et la direction de l'énergie par les formes. Pour le dire autrement, elle a pour cœur un paradoxe, la conscience donne forme à la réalité donne forme à la conscience. En ce moment, ma conscience est formée par de nombreuses réalités, depuis mon appartenance de classe jusqu'au degré de caféine dans mon sang. J'écrirais différemment si je ne pouvais pas payer mon loyer, ou si je buvais du thé à la menthe au lieu d'un café noir français en grains. Votre conscience est en train d'être modifiée par la réalité de ces mots qui ont l'autorité de la chose imprimée. Vous les entendriez différemment si nous étions en train de courir ensemble dans le parc, avec moi dans un pull en loque en train de héler mes chiens. Oui, la manière dont nos consciences, la vôtre et la mienne aussi pendant que j'écris, sont modifiées par ces mots peut nous amener à agir différemment, à faire d'autres choix, à utiliser notre pouvoir du dedans sur des modes qui diffèrent de ceux que nous utiliserions si nous pensions autrement. Et nos actions, nos choix peuvent changer le monde autour de nous de différentes manières. La magie est un art. Cela veut dire qu'elle concerne des formes, des structures, des images qui peuvent nous entraîner hors des limites imposées par notre culture avec une efficacité que les mots seuls n'ont pas. Elle concerne des visions suggérant des possibilités d'accomplissement que n'offre pas un monde vide. Et la magie est volonté, action, énergie dirigée, choix fait non pas une mais de nombreuses fois. Comme ce texte est un acte de volonté autant que d'art, fait de centaines de milliers de petites décisions. Celle de s'asseoir sans relâche devant la machine à écrire et de faire cela et non l'infinité des autres choses offertes par la vie. Ces choix m'ont conduite à d'autres choix et m'ont tiré de la tristesse vers l'action, le risque et l'espoir. Et nous avons raison d'espérer. Les forces de destruction semblent grandes, mais contre elles, nous avons le pouvoir de choisir. Notre volonté humaine et notre imagination, notre courage, notre passion, notre impatience d'agir et d'aimer. Et nous ne sommes pas, en vérité, à distance de ce monde. Nous faisons partie du cercle. Quand nous plantons, quand nous tissons, quand nous écrivons, quand nous enfantons, quand nous organisons, quand nous soignons, quand nous courons à travers le parc, dans la brume exhalée par les séquoias, quand nous faisons ce que nous avons peur de faire, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes du monde, et les uns, les unes avec les autres, et notre pouvoir du dedans est grand, même s'il n'est pas invincible. Si nous pouvons être blessés, nous pouvons soigner. Si chacun, chacune de nous peut être détruite, en nous, il y a le pouvoir du renouveau. Et il est encore temps de choisir ce pouvoir-là.
Mais nous, on peut dire qu'on est en train de faire de la magie aussi, hein, grâce à Pinode, grâce à l'écho des Garrigues, de la magie hertzienne et numérique pour transmettre justement ces mots et ces sons qui nous ont touchés, nous, en fait. Ça passe à travers nos corps à nous, et puis on continue quoi, à les faire circuler de cette manière-là. Get in now, we drive.
band together. Pick up steam and get there better. Igbo Kwenu join together. Find ourselves in one accord. We feel the power. We feel the power. We feel the power. The power of a positive note. We feel the power. We feel the power. We feel the power. The power of a positive note. We feel the power. We feel the power. We feel the power. The power of a positive note. We feel the power. We feel the power. We feel the power. The power of a positive note.
Après ça, aller dire que les forces vivantes ne sont pas suffisantes. Quelle puissance il y a et si on ne peut pas tout renverser, toute cette ambiance mortifère avec voilà, ce genre de morceaux, ce genre d'énergie.
Oui, c'était No, vous avez entendu No de Nwando Ebisi sur son album The Swan. Et oui, c'est cette énergie-là qui nous a bluffé là.
Et alors, elle se définit comme étant dans une démarche afro-futuriste et sur son site internet, elle est présentée comme le point de constellation, de rencontre d'un spectre de travaux, d'œuvres multidisciplinaires qui appellent à un changement radical mis en majuscule. Et elle dit qu'elle... enfin je dis elle dit, je suppose que c'est elle qui s'est définie, en tout cas qu'elle met son public au défi de questionner les réalités qu'ils et elles perçoivent à travers différentes performances artistiques, du théâtre expérimental, de la neuroscience, de la musique et des danses rituelles de la diaspora africaine. Et elle parle d'ailleurs, qu'elle dit qu'elle est inspirée elle-même par sa propre neurodiversité. Et donc vous pouvez retrouver ça sur son Bandcamp, dont on mettra le lien, comme d'habitude. Et bien après ces deux lectures, on va écouter Tania Tagak et on vous en parle après.
On vient d'entendre Tania Tagak et vous écoutez Radio Renversée numéro 12. Renverser l'écologie, on est sur Pinode et sur l'écho des Garrigues à Montpellier et sur plein d'autres radios, toutes celles qui souhaitent nous diffuser.
Ouais, et puis on vient d'entendre du coup Uja de Tania Tagak. Alors Tania Tagak, c'est une chanteuse inuite qui fait du chant de gorge. Et bah, dans un style punk, voilà, qui est assez... qui est d'une énergie folle aussi, là encore. Et alors, justement, cet album, en fait, duquel Uja est tiré, c'est l'album Animism, qu'elle a sorti en 2014. Et à l'occasion, d'ailleurs, d'un live, elle a suscité une polémique, Tania Tagak, parce qu'elle a insulté une des grandes associations de défense des animaux, des autres espèces animales, des animaux non humains, PETA. Et elle a posté sur Twitter une photo d'elle et de sa sœur à côté d'un phoque mort. Et du coup, elle a choqué beaucoup de monde en faisant ça. Et en fait, cette polémique-là, elle est intéressante parce qu'elle dit beaucoup de choses, justement, des tensions à l'intérieur de l'écologie. PETA, c'est une association qui réunit essentiellement des personnes blanches. Et je me tromperai sans doute pas en disant aussi que c'est une association qui est portée beaucoup par des hommes blancs, donc. Et Tania Tagak, quand elle a fait son live, elle faisait défiler derrière elle, déjà d'une part, le nom de 1200 femmes autochtones assassinées ou disparues, parce que autochtones, puisqu'il y a, parmi les féminicides extrêmement violents et extrêmement massifs qui existent aujourd'hui et qui ont existé au XXe siècle et au XIXe, il y a notamment les féminicides de femmes de peuples premiers. Et donc voilà, et elle relève cette question-là. Et elle relève aussi le fait que le phoque, pour les peuples inuits qui vivent de façon non industrialisée, justement, fait partie de l'alimentation de base et permet aussi de rester au chaud, de faire des vêtements. Et dans un entretien sur lequel la journaliste l'interviewait sur cette polémique qu'elle avait suscitée, elle disait, mais en fait, je sais que j'ai suscité la polémique, mais je trouve ça vraiment hypocrite de venir reprocher aux Inuits de tuer quelques phoques pour leur alimentation, dans une économie de subsistance, enfin ça c'est moi qui le rajoute, et non pas de prédation, non pas pour revendre, mais pour vivre au quotidien, par des gens qui sans doute ont un animal de compagnie dont les croquettes sont composées d'animaux morts également, et sans que ça se soit jamais interrogé. Nos chiens, nos chiennes, nos chattes, nos chats ne sont pas végétariens, végétariennes parce qu'on l'aurait décidé. Et effectivement, cette question-là n'est pas, ne va pas être interrogée. Et en fait, Tania Tagak aussi, elle relève quelque chose qui est très présent dans l'écologie gestionnaire dont parlait Caroline Merchant, c'est-à-dire on va conserver la nature, mais c'est une nature idéalisée qui doit rester vierge, qui est définie telle qu'elle par des managers occidentaux, et à l'intérieur de laquelle ils ne vont plus tolérer d'usages de subsistance qui pourtant ont été portés depuis des siècles. Et ce problème-là, on le retrouve lorsque les grands parcs en fait sont fondés aux États-Unis. Notamment, il y a un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle « Crimes contre la nature » de Carl Jacobi aux éditions Anacharsis, où il revient sur précisément comment des usages de subsistance ont été déclarés illégaux à partir du moment où ces grands parcs ont été créés. Et ça visait les différents peuples indiens qui vivaient sur ces terres. Ça visait aussi des blancs qui étaient arrivés ultérieurement, mais des blancs pauvres, en fait, qui vivaient également de subsistance sur ces terres et tout à coup sont retrouvés dans l'illégalisme forcé. Et de la même manière, ça c'est dit dans un autre livre, notamment « L'invention du colonialisme vert » de Guillaume Blanc, sur exactement le même type de processus lors de la création des réserves naturelles en Afrique. Et ces réserves ont été créées généralement par des institutions, ou en tout cas avec leur financement et sur leur houlette, des institutions occidentales. Et en écartant en fait les usages humains précédents et les entremêlements précisément qu'il y avait auparavant, ou avec effectivement parfois certaines, d'autres espèces animales qui sont tuées par des humains et des humaines pour la subsistance, et comment ces usages-là ont été rendus illégaux, et même sans tuer d'autres espèces animales, la simple culture de la terre est considérée comme illégale, et donc on appauvrit en fait des personnes et des peuples qui vivaient là depuis des siècles au nom de la préservation de la nature. Et on retrouve ça même dans des tensions en France. Enfin, une amie apicultrice à qui je tire mon chapeau, Mélanie, me racontait que, par exemple, il y a une association en France de préservation de la vie sauvage et de la faune qui fait un bon travail, sauf qu'elle rentre aussi dans des conflits. Par exemple, elle a eu un conflit avec un berger qui avait un usage pastoraliste d'un territoire, et l'association l'a fait dégager. Justement, au nom de cette préservation d'une nature vierge en France. Donc comment, Tania Kagak, la polémique qu'elle a suscitée, en fait, il y a tout ça à l'intérieur, en fait. Il y a le problème d'une écologie raciste, d'une écologie gestionnaire, coloniale, Et bah, ça nous permet d'aborder, dans cette émission qui ne va pas durer 2 heures, je pense, Aude, hein, on va se permettre non seulement irrégularomadaire, mais en plus bah, de ne pas du tout être fiable sur la durée de l'émission. Donc on va faire 2h30 ou 3h, on va voir. Et ben comment... Bah, c'est vrai, l'émission, elle pousse de l'intérieur. Je trouve ça bien en même temps pour une émission sur l'écologie, quoi. Et ben aborder justement l'écologie, plus précisément l'écologie décoloniale, bah, qui reste aussi une écologie féministe. Enfin, tout ça est complètement entremêlé sans cesse. Mais du coup, voilà, c'est, ça nous permet d'aborder une autre pensée qu'on trouve super importante, qui a été vraiment très centrale, en fait, dans ces mois où on a réfléchi aux questions d'écologie. C'est un livre de Malcolm Ferdinand qui s'intitule « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen », qui est paru au Seuil. Et bah, Malcolm Ferdinand, c'est un chercheur qui vit et qui travaille en France actuellement. Bah, je vais vous lire. Bah, alors là, pareil, hein, c'est comme Caroline Merchant, ce sont des lectures longues, mais qui méritent d'être longues. En fait, on chemine vraiment à l'intérieur de ces lectures. Et puis la longueur, en fait, pour reprendre le terme de magie de Starhawk, la longueur... bah justement, elle fait partie de cette magie de la transformation. En fait, je ne pense pas qu'on puisse se transformer sans passer, en fait, par ce cheminement qui est nécessairement lent.
Et ce qui est assez beau par rapport à l'analogie là, que tu fais là, avec Starhawk, c'est sûr que ça résonne en fait, dans toutes nos lectures, s'alimentent les unes les autres, et ce qu'on essaie de faire entendre dans cette émission. Et quand, dans l'idée de rêver l'obscur, là, on a l'idée d'aller on va aller dans le monde de la cale et du navire négrier. Et ce navire négrier qui va nous emmener tout au long de la pensée décoloniale n'est pas une simple métaphore de la part de Malcolm Ferdinand. Il me semble, en tout cas, l'idée, c'est d'aller au sein des... à l'endroit même des tempêtes, enfin aussi bien de ce navire en fond de cale. C'est de là, c'est de ce point de vue que Malcolm Ferdinand se place. Enfin, c'est de ce point de vue du navire grillé et depuis le monde caribéen, hein, de manière. Et donc, si on est depuis le monde caribéen, on vient aussi depuis ces bateaux qui ont transbordé et qui ont déporté des populations, qui les ont déracinées. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il parle de tempêtes modernes et comment, enfin, d'aller au cœur des cyclones, en fait, au cœur de ces tempêtes modernes, pour essayer de pouvoir renverser la perspective et de se placer depuis le monde caribéen.
Oui, et d'ailleurs, peut-être avant de lire vraiment les... Enfin, je veux dire un premier extrait, mais qui est pour lui une... Il structure son livre en mettant en tête de chaque chapitre un court paragraphe écrit de façon littéraire plus libre, où il parle du trajet d'un navire négrier à chaque fois. Et il marque en fait comment ce navire, à partir du nom du navire, il file une métaphore sur l'écologie décoloniale, pour la donner vraiment à lire. Ben, je vais vous lire la première. Donc, Planté, 1753. Le 20 janvier 1753, le Planté quitte le port de Liverpool et borde ses voiles en direction des îles de Guinée. Les îles caribéennes sont déjà conquises. Les peaux rouges déboisées, les forêts abattues et les sols écorchés songent encore à l'amour d'une terre-mère démise. Ne manquent que les intrants. De mars à octobre, le navire parcourt les comptoirs africains à la recherche du fumier nègre. Sur les 368 sacs de corps engrais embarqués, 68 réminiscences se décomposèrent dans le ventre putréfiant du navire, voyant leur nom se diluer dans l'Atlantique grisâtre. Arrivé à Kingston le 17 décembre 1753, le Planté sema les 300 corps évidés dans les plantations de la Jamaïque. Par l'alchimie coloniale, les villages de Guinée, les divinités amérindiennes, les trilles des bois et les danses d'argile devinrent sucre roux, coton, tabac, café et indigo rapportés en Europe. Le Planté fit de la terre et du monde une plantation. Voilà, et chacun de ces chapitres vraiment donne à sentir, en fait, de façon très concrète ce qu'a été le colonialisme, ce qui a été la mise en esclavage de millions de personnes. Et donc, écologie décoloniale, ben, je vais vous lire son tout début. La première proposition part du constat d'une double fracture coloniale et environnementale de la modernité qui sépare l'histoire coloniale et l'histoire environnementale du monde. Celle-ci se remarque par le décalage entre les mouvements environnementaux et écologistes d'une part et les mouvements post-coloniaux et antiracistes d'autre part, qui s'expriment dans les rues comme dans les universités sans se parler. Cette fracture se révèle aussi quotidiennement par l'absence criante de Noirs et de personnes racisées dans les arènes de production de discours environnementaux, comme dans les outils théoriques utilisés pour penser la crise écologique. Donc je lis des extraits, hein, je passe quelques pages. Du côté environnementaliste, cette difficulté provient d'un effort d'invisibilisation de la colonisation et de l'esclavage dans la généalogie d'une pensée écologique, produisant en retour une écologie coloniale, voire une écologie de l'arche de Noé. Mettre de côté ce fait colonial, c'est masquer les oppositions au nucléaire émises par des mouvements anticoloniaux tels que l'exigence du désarmement porté par la conférence de Bandung de 1955, le refus panafricaniste de Kwame Nkrumah, Bayard Rustin et Bill Sutherland de l'impérialisme nucléaire et des essais français en Algérie, la dénonciation par Frantz Fanon d'une course à l'armement nucléaire qui maintient la domination du tiers-monde ou les demandes contemporaines de justice des Polynésiens. En occultant les conditions coloniales de la production de la technique, on passe à côté des alliances possibles avec des critiques anticoloniales de la technique. Et alors, il faut que j'arrive à 22-28. Okay. De cette invisibilisation découle, note Catherine Youssouf, un anthropocène blanc dont la géologie efface les histoires des non-blancs, un imaginaire occidental de la crise écologique qui efface le fait colonial. Il persiste encore une arrogance coloniale de la part des actuels collapsologues à parler d'un effondrement nouveau, alors même qu'ils occultent les liens avec les colonisations modernes, les esclavages et racismes, les génocides des peuples autochtones et destruction de leur milieu. Pourtant, se pourrait-il qu'une entreprise globale, qui du XVe au XXe siècle était fondée sur l'exploitation des humains et non-humains, y compris la décimation de millions d'indigènes des Amériques, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, le transbordement forcé de millions d'Africains et d'Africaines et les esclavages multiséculaires n'aient aucune relation matérielle ou philosophique avec la pensée écologique aujourd'hui ? La crise écologique et l'anthropocène seraient-ils les nouvelles expressions du fardeau de l'homme blanc à sauver l'humanité d'elle-même ? Fracture. Et il va dérouler en fait cette question-là qui est fondamentale. Je vais aller plus vite parce que sinon, voilà, encore une fois, il faudrait lire tout son bouquin, quoi. Mais il parle de l'habité coloniale du monde qui a été institué en définissant cette habité coloniale comme... comme le fait... Attends, il faut que je trouve la définition. Il faut que je trouve page 67. Il dit par exemple, l'habité colonial est pensé comme étant subordonné à un autre habité, l'habité métropolitain, lui-même pensé comme l'habité véritable. Le deuxième principe de l'habité colonial se fonde sur l'exploitation des terres et de la nature des îles. Enfin, le troisième principe de l'habité coloniale est l'altéricide, c'est-à-dire le refus de la possibilité d'habiter la terre en présence d'un autre, d'une personne qui soit différente d'un moi par ses apparences, ses appartenances ou ses croyances.
Oui, parce qu'en fait, il revient au geste fondamental de la colonisation en disant que c'est pas juste, on détruit des terres, on met en esclavage. Enfin, derrière ça, c'est l'acte d'habiter qui est touché. Et donc, on peut plus... c'est un habiter sans l'autre.
Il évoque d'ailleurs, en contrepoint de cette habité coloniale, le fait de faire des êtres humains, des astronautes étrangers à la Terre. Il parle des corps nègres comme des corps propulsés hors du monde, c'est-à-dire hors non seulement de leur pays de naissance, de leur pays de culture, mais qui ne peuvent jamais s'enraciner nulle part ailleurs, en fait, qui sont constamment maintenus hors du monde. Et de l'écologie blanche, justement, comme une écologie d'astronaute, en réalité, qui surplombe le monde, qui n'y habite pas vraiment. Avec cette figure d'astronaute, d'ailleurs, elle fait beaucoup écho à tout ce que fait Elon Musk aujourd'hui, quoi. Il faut aller coloniser d'autres planètes aujourd'hui parce qu'on a trop détruit la Terre, et donc la seule solution, c'est de partir. Alors Malcolm Ferdinand, il revient aussi sur ce qu'on évoquait en fait.
La politique de la cale négrière, elle a produit des individus hors sol. Je le cite sur des individus hors sol. Et le fait qu'ils soient hors sol, ce qu'il raconte de l'habité coloniale, c'est que ça continue et ça perdure, malgré le fait qu'il n'y ait plus, soi-disant, la colonisation. Mm. Même lorsque les esclaves sont libres, en fait, la plantation, le système de plantation, ce qu'il appelle le plantation...
Plantationcène, je crois que c'est Donna Haraway qui avait
le plantationcène par Anat Singh et Donna Haraway qui l'ont nommé. Ça veut dire que donc avec une monoculture qui détruit, enfin qui est non seulement au niveau de l'environnement, enfin elle détruit tout, mais en plus elle ne permet pas de subvenir à ses besoins. Il dit ton île ne te nourrira point. Donc les personnes hors sol qui vivent là ne peuvent pas habiter l'espace, et ça perdure.
Et que les esclaves marrons et marrons, c'est-à-dire qui ont fui, qui ont réussi à fuir les plantations, précisément reconstruisent un autre rapport écologique, construisent un autre habité où justement les forêts, les animaux qui font peur aux blancs et éventuellement dangereux deviennent des alliés des marrons et des marrons pour les cacher, pour leur permettre de vivre en dehors de la plantation et pour leur permettre d'expérimenter aussi d'autres écologies, de produire sur ces îles qui ont été pensées comme hors sol, justement, de produire des jardins vivriers, d'apprendre à connaître les plantes et les autres espèces qui sont sur ces îles.
Mais en même temps, il mettait une nuance là-dessus, j'ai l'impression, Malcolm Ferdinand, sur le fait que c'est quand même, ça reste une fuite et que la fuite marronne n'a peut-être pas d'issue. Enfin, ou en tout cas, elle, pour vraiment qu'elle puisse devenir une véritable écologie et qu'elle puisse, qu'un renversement puisse s'accomplir, il faut aller au-delà de cette fuite, en fait.
Oui, après, il parle il a la figure du compagnon de bord, en fait. C'est-à-dire, il évoque différentes manières de fuir ou de résister à la plantation. Et il décline toutes ces figures-là. Et il parle beaucoup de la figure, justement, du compagnon de bord qui, lui, va être là pour recréer de la relation là où il n'y en avait plus. Il parle d'autres manières, en fait, de recréer des mondes, parce que pour lui, justement, l'écologie, c'est pas sauver la Terre, c'est recréer un monde. C'est-à-dire, le monde, pour lui, c'est l'ensemble des relations, non seulement l'ensemble des espèces, qui sont présentes, mais également l'ensemble des relations que ces espèces peuvent tisser entre elles, c'est-à-dire qu'il réinclut l'interdépendance à l'intérieur de ça. Il évoque aussi ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, il évoque un massacre de paysans qui a eu lieu dans un des parcs nationaux d'Haïti, le parc de la Visite, un massacre en 2012. Où des paysans ont été sommés de quitter un parc qui devait être préservé. Il y avait 142 familles qui vivaient soit dans le parc, soit juste aux abords, et qui avaient une agriculture ou un usage pastoral de subsistance, et qui ont été par décret du gouvernement de Jean-Claude Duvalier, qui ont été expulsés, se soldant par la mort de 4 adultes, et 2 enfants ont été portés disparus.
Ouais. Non, l'autre exemple aussi qui était marquant à Porto Rico, il raconte comment c'était un endroit de laboratoire colonial, mais vraiment un laboratoire militaire, notamment par la marine des États-Unis, de 1941 à 2003, donc c'est quand même énorme. Il faut imaginer qu'il y avait des bombardements 180 jours par an, pendant toutes ces années, donc jusqu'à par exemple 23 000 bombes lâchées sur l'île en 1998. Donc il faut imaginer comment on habite ces espaces-là. Les habitants et habitantes vivaient donc dans ce pays bombardé, exposé à des contaminations de terre par les métaux lourds. Et alors la chose qui est très surprenante, c'est qu'au moment où il y a eu ces fins d'opérations militaires, alors que les habitants et habitantes auraient pu penser avoir une restitution des terres, eh bien, des terres occupées et en les dépolluant, eh bien en fait les terres ont été remises à l'agence, une agence environnementaliste qui a décidé d'en faire une réserve naturelle et donc n'a pas restitué les terres aux populations et ont été pas du tout les bienvenus sur ce territoire. C'est devenu donc une réserve.
Avec un discours y compris très hypocrite sur le fait que finalement l'armée avait permis de préserver en grande partie les espèces là parce que sinon les usages de subsistance auraient détruit en fait certaines espèces, vraiment avec... Un discours assez effroyable qui a été tenu pour justifier cette passation entre l'armée et une association environnementaliste, quoi. Et voilà, et puis après, il évoque aussi à différents moments... Enfin, là, on vous dit juste les passages qui sont les plus marquants, hein, pour vous donner envie de faire toute la lecture, en réalité. Il évoque comment les navires négriers se sont aussi transformés en navires baleiniers et inversement. Donc, comment sont corrélées aussi des exploitations des corps humains et des corps animaux. Et puis, je vais peut-être vous lire juste entre guillemets, je vous lis un peu plus longuement... la fin, son épilogue, qui est intitulé « Faire monde ». À l'urgence environnementale d'une limitation du réchauffement climatique et de la fin des destructions des écosystèmes de la Terre, j'appose les urgences égales. D'une redistribution mondiale des richesses et d'une justice sociale. De la tâche décoloniale, d'une reconnaissance d'une digne place au monde, aux peuples premiers, aux anciens colonisés et aux personnes racisées. Et d'une égale considération sociale et politique des femmes, et singulièrement des femmes racisées des anciennes colonies européennes. Oui, l'écologie est avant tout un enjeu de justice. La crise écologique est une crise de justice. Faire face à l'urgence de cette tempête écologique demande à revenir aux origines de cette crise comme aux origines de la justice environnementale et justice climatique. De Pierre Poivre aux partisans de l'Anthropocène, en passant par John Muir, l'environnementalisme a patiemment découpé les corps, les natures, la terre et le monde en inventant une terre virginale, dépeuplée, un paradis sans monde, un jardin, un étang et une forêt recentrée uniquement par la pensée d'hommes blancs occidentaux. De même, l'environnementalisme a séparé la justice environnementale de ses élans antiracistes et féministes initiaux. Les partisans environnementalistes de l'Anthropocène brandissent avec angoisse la perspective d'un effondrement pour lequel ils demandent justice, sans reconnaître les effondrements passés, les esclavages et les génocides, sous prétexte qu'il s'agirait aujourd'hui d'un sujet global. Cette pensée apolitique de l'écologie par ceux qui, sur le pont, respirent allègrement l'air frais, n'est que le maintien de l'enfer, de la cale et des injustices du plantatiocène. De là découle le mensonge prétendant que les racisés, les colonisés, les dominés ne sont pas concernés par l'écologie, et l'absurdité selon laquelle les pays occidentaux se pensent encore comme les missionnaires chargés de répandre la bonne parole aux peuples de couleurs et aux profanes. Pourtant, c'est bien à partir de luttes contre le racisme environnemental et contre les dominations coloniales que des femmes, des militants et des académiques noirs, des descendants d'esclaves, des latinos et des amérindiens amérindiennes aux États-Unis ont affronté la question écologique en termes de justice dans les années 1980. L'antiracisme, l'exigence décoloniale et le féminisme, de même que la préservation d'une terre-mère, furent indissociables de la confrontation à la crise écologique. Il ne faut pas se laisser berner par le voile environnementaliste. La confrontation des mouvements antiracistes, décoloniaux et féministes aux dégradations environnementales de la Terre est bien un prolongement de leur lutte. Et il fait d'ailleurs aussi une très belle critique de ce qu'il nomme l'écologie de l'Arche de Noé, où en gros c'est une écologie qui vise à... c'est une écologie du tri, de la sélection, qui vise à ne préserver que certaines espèces qui seraient jugées dignes d'être préservées. Une écologie du sauve-qui-peut. Une écologie de riches aussi, de personnes qui ont les moyens de monter dans l'arche, et contrairement à toutes les personnes qui sont laissées dans la cale. Il parle beaucoup du fait de refaire écologie par le local. Et cette écologie décoloniale, elle nous semble beaucoup plus à même, en fait, de penser aussi ce qui nous arrive à travers la pandémie de Covid-19, puisque ce sont également les mêmes personnes, en fait, les personnes qui sont dans la cale, les personnes racisées, les personnes pauvres, ce sont elles qui sont affectées principalement par le Covid, qui en meurent ou bien qui sont affectées dans leur quotidien toujours aujourd'hui. Et le collectif Cabriole, dont on ne saluera jamais assez le travail de veille et de défrichage, que vous pouvez retrouver en fait ces sélections d'articles et ces prises de position sur cabriole.substack.com. Et ils ont traduit il n'y a pas longtemps un entretien avec Stephen Thrasher, qui est un chercheur qui parle de sous-classe virale. Et la sous-classe virale, bah justement, ce sont toutes ces personnes qui sont affectées par le virus, pour qui le virus a profondément, a encore accru en fait les inégalités dans leurs existences, alors que déjà c'était les personnes qui les subissaient de plein fouet. Et ça nous semble infiniment plus précieux en fait de penser aussi à cette question du Covid à partir de l'écologie décoloniale qu'à partir des pensées du vivant qui s'était épanouie dans les années 2010 avant le Covid et qui, comme d'ailleurs la pensée anti-industrielle, est partie complètement en vrille en fait sur la question du Covid, en fait a dévoilé des impensés validistes ultra-violents. Et par exemple, sur les pensée du vivant avec des discours assez hallucinants de dire par exemple que le virus était une petite espèce à protéger finalement, que ça faisait partie du vivant et qu'il fallait l'accueillir, que d'ailleurs les personnes qui en mouraient c'est des corps qui avaient accepté d'accueillir ce microbe. Que même les virus, finalement, c'est comme les étrangers, il faudrait leur faire de la place. Enfin, une sorte de méli-mélo complètement hallucinant, qui réutilisait des luttes antiracistes et des luttes écologiques, en fait, pour instituer des rapports, pour entériner, en fait, les rapports de domination et les rapports et la violence, en fait, de classe, de la violence raciale, la violence... Toutes les violences intersectionnelles que ce virus n'a fait qu'accroître. Et donc, dans les luttes décoloniales, comme dans les luttes anti-validistes, on a d'autres choses et qui sont infiniment plus réjouissantes, plus vivantes, plus égalitaires, plus révolutionnaires aussi, pour penser la suite.
Et renverser tout ce monde pour faire nouveau monde.
Voilà.
Et moi, j'avais juste envie de terminer par une lecture d'un poème d'une femme poète afroféministe très inspirante qui s'appelle Audre Lorde. On la connaît par notamment son Sister Outsider qui est absolument magnifique, plutôt de l'ordre de l'essai. Et là est paru il n'y a pas longtemps donc son recueil en français, enfin traduit en français, La Licorne Noire, The Black Unicorn, aux éditions L'Arche. Et je trouve celui intitulé Parcourir nos limites est assez approprié. Ce premier jour ensoleillé a brisé ses reins à l'hiver. Nous nous relevons d'une guerre et nous foulons la terre autour de notre maison, toutes deux épatées que le soleil puisse briller si violemment après notre désolation. Nous inspectons prudemment notre propriété commune. Une partie du jardin de l'année passée a tenu le coup, les fougères, une gousse desséchée de gombo oubliée s'accroche à la vigne, parodie de fruits gelés et flétris au pied de l'arbre, un bardeau qui pourrit se transforme en glaise. Je te tiens par la main près du tas de compost, heureuse d'être en vie et encore, avec toi, nous parlons de choses ordinaires, soulagées, tandis que nous levons la tête, chacune craignant à moitié qu'il n'y ait pas de bourgeons sur notre vieux pommier, si fortement endommagé par la tempête cet hiver. Nous savons qu'il ne sert à rien d'aduler des symboles. Quand l'essence profonde est à portée de main, attendant d'être cueillie, ta main, feu familier, quitte l'écorce du pommier et me caresse le dos. Mes épaules sont des feuilles mortes qui rêvent d'être ramenées à la vie par le feu. Le soleil a la tiédeur de l'eau. Nos voix semblent trop fortes pour ce petit jardin, trop hésitantes pour des femmes, tellement amoureuses. Nos pas préservent l'unité de ce lieu, notre lieu. Nos décisions prises en commun font du possible un tout. Je ne sais pas quand nous rirons de nouveau. Mais la semaine prochaine, nous laboureront un nouveau carré de terre pour les semailles de printemps.
Ah, c'est magnifique. Et on arrive à la fin de cette émission.
Oui, c'est la fin de l'émission, Juliette.
Merci, Aude.
Radio Renversée, merci, Juliette. Radio Renversée, numéro 12, l'écologie. Renverser l'écologie. Bah, merci, Pinode, à l'écho des Garrigues qui nous diffuse. Et on vous laisse avec un son. Pour la fin, avec une pièce, tu voulais rajouter un truc?
Ouais, je voulais rajouter juste un truc avant de vous laisser avec le son de la fin. C'est que vous pouvez retrouver cette émission sur ton site, audrabillon.wordpress.com ou sur le mien, intempestive.net. Vous aurez toutes les références dont on a parlé là, qu'elle soit sonore ou littéraire, et enfin sonore ou écrite plutôt. Et on remercie toutes les personnes en fait, même celles qui nous connaissent absolument de nulle part, qui ont permis qu'on fasse cette émission. Donc toutes celles qu'on a citées, toutes celles dont on a passé des pièces, toutes celles qui ont nourri notre pensée autour de ça, les émissions aussi qu'on a citées. Et Pinode et l'écho des Garrigues, merci beaucoup d'être là. Et on vous quitte, on passe Julia. Hein.
Oui, on va passer la pièce de Julia Anadi El Abed, intitulée « Vase de Spaghiri ».
Voilà, Julia qui est une artiste française qui travaille beaucoup sur les questions écologiques et qui... comme Iga van den Hove aussi était en train de redéfinir une autre forme d'écologie sonore qui travaille le rapport aux autres espèces et qui se questionne beaucoup sur sa place en tant que compositrice et ça s'entend dans son travail et qui est aussi une très belle personne. Ça va souvent ensemble tout ça. Voilà. Et c'est tout. Salut Aude.
Salut Juliette.
Thank you.
Vous venez d'écouter 1h30 de l'émission Renverser l'écologie de Radio Renversée, que vous pouvez retrouver sur le site l'intempestive.net. J'espère que ça vous a plu. Et il faut savoir aussi qu'il y a une version qui a été faite pour rendre accessible cette émission aux personnes sourdes et qu'on peut retrouver donc sur YouTube. Je mettrai la référence dans la description du podcast. Alors, bonne semaine à vous. Restez sur Radio Galère. Bientôt, c'est l'heure de 1h en Palestine. Et on se retrouve la semaine prochaine.